Radio Capi, grand témoin.
Bonjour, je suis Alain Hiron Mouchinge. Dans Grand Témoin aujourd'hui, je reçois Dr Michel Mouvou de Lushimba. Il est médecin, conférencier, coach, encadreur des jeunes du groupe SID Solidarité, doctorant à l'université de Lubumbashi en leadership et auteur. Avec lui, nous parlons de l'ouvrage qu'il vient de publier intitulé « Jean-Jacques Muyembe, cette personne inspirante ». Mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous. Docteur Michel Mouvoudi, bonjour.
Bonjour, cher Alain.
Je vous reçois parce que vous publiez un très bel ouvrage sur Docteur Jean-Jacques Muyembe, le professeur Muyembe, dont on va devoir découvrir la personnalité à travers cette émission. Et le livre s'intitule « Jean-Jacques Muyembe, cette personne inspirante ».
Exactement. Exactement. Publié aux éditions Harmattan.
Près de 130 pages. Hein?
Oui.
Pourquoi écrire sur Dr Muyembe? En RDC, souvent, on rend hommage aux personnalités lorsqu'elles sont décédées.
À titre posthume.
Mais là, oui. Ça se fait pendant que la personne est vivante. Je pense que c'est une pratique qu'il faudrait encourager.
Exact.
Mais c'est quoi la motivation?
Alors, la motivation, elle peut s'articuler sur trois piliers. Hein? Alors, le premier pilier, d'abord, avant de parler du livre, je me dis toujours, Alain, si on n'écrit pas, qu'est-ce qu'on va léguer aux générations futures? Ce que nous sommes devenus, moi et toi, c'est parce qu'il y a des gens qui ont écrit. Voilà, nous avons appris, par exemple, la loi de la relativité, n'est-ce pas, Aristote, parce que quelqu'un a écrit là-dessus. Nous avons appris la table des multiplications de Pythagore parce que quelqu'un a écrit dessus. Nous avons appris la négritude parce que Léopold Senghor.
Et même l'alphabet, hein.
A écrit l'alphabet. Nous avons appris que, en 1483, Diego Kawa a découvert l'embouchure du fleuve Congo parce que quelqu'un a écrit. Et donc, je me dis, nous, qu'est-ce qu'on serait sans avoir vu ou lu les livres? En d'autres termes, pourquoi nous, on doit garder avec nous la science? Pourquoi nous, on doit garder avec nous le savoir? Donc, pour moi, ne pas écrire ce qu'on a vu, c'est un peu couper la chaîne de transmission. Imagine-toi les chrétiens sans Bible. Imagine-toi les musulmans sans Coran. Donc, écrire, c'est une façon de pérenniser, c'est une façon de léguer aux générations futures. D'abord ça, pour moi, c'est ça qui m'amène dans la passion d'écrire, c'est de dire, si personne n'avait écrit avant moi, je n'aurais pas appris ce que j'ai appris aujourd'hui. Donc pourquoi ne pas continuer la même chose? Alors ça, c'est vraiment globalement. Maintenant, deuxièmement, le professeur Jean-Jacques, je me dis, il est quand même temps dans notre pays de mettre en exergue des référentiels, de mettre en exergue des personnes qui sont modèles. Tu sais, le malheur qu'on a dans la vie, et surtout dans notre pays, c'est toujours mettre en exergue ce qui ne marche pas, des personnes qui ont détourné, passer son temps à avoir des audiences de jugement. Et ça, c'est pas toujours ce qui se passe en RDC. Mais il y a des gens qui peuvent donner le modèle aux générations futures. Il y a des gens, de par leur façon d'être, leur façon d'agir, leur façon de vivre, peuvent justement apprendre aux générations futures une conduite à tenir. Et le professeur Jean-Jacques Muyembe est parmi ces gens-là. Ça, c'est vraiment le deuxième point. C'est le souci de mettre en avant les référentiels, le souci de mettre en avant des modèles, des icônes. Et troisièmement, Alain, c'est en fait se dire, vous savez, je suis parti d'un adage qui dit, oui, en Afrique, quand un vieux décède, c'est une bibliothèque qui brûle.
Qui brûle.
Non, je pense que même quand les vieux sont en vie, ce sont des bibliothèques qui existent. Pourquoi ne pas consulter ces bibliothèques quand ces personnes sont encore en vie?
Comprenez, et en préserver les acquis.
Exactement. Pour moi, je me suis dit, il faut justement que j'écrive maintenant là ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu, ce que j'ai ressenti, ce que j'ai appris du professeur Jean-Jacques Muyembe. Pour la simple raison que, lorsque la personne est encore en vie, elle peut détailler certains secrets, elle peut vous dire pourquoi ça et pourquoi pas une autre chose. Et donc, pour moi, écrire sur quelqu'un qui vit, mettre dans les bibliothèques du monde un livre d'une personne qui a forgé l'image de la santé en RDC et au monde, c'est vraiment un plaisir énorme.
Alors, l'ouvrage est préfacé par le professeur Jean-Marie Kayembe, recteur de l'université de Kinshasa, une autre bibliothèque.
Exactement, à qui je dis un très grand merci pour le travail collectif qu'on a eu à faire.
Pourquoi son choix?
Alors, il faut d'abord dire que je suis parti de la dernière guerre que nous avons menée ensemble contre la Covid-19. Nous étions un petit groupe des personnes qui étaient engagées vraiment dans la lutte contre la pandémie à la Covid-19. Et le professeur Jean-Marie Kayembe était dans ce comité-là. Vous savez, c'était une lutte difficile. J'en parle dans une des parties du livre, notamment vers la fin. Comment est-ce que le professeur nous a permis de, par son expérience déjà à travers les autres épidémies, notamment les épidémies de la maladie à virus Ebola, comment il fallait bien faire les choses. Et je voyais l'interaction entre le professeur Jean-Jacques Mouyembe, qui s'occupait de manière globale de la coordination multisectorielle de la pandémie, et le professeur Jean-Marie Kayembe, qui s'occupait de la prise en charge. Et donc, cette complicité, et moi j'étais témoin de ça, m'a permis de dire, écoutez, s'il y a quelqu'un qui peut justement rendre témoignage, mais aussi quelqu'un qui est dans la même filière, parce qu'il faut avouer que le professeur Jean-Marie Kayembe, c'est aussi un investisseur des économies positives, hein. Donc tout ce qu'on fait pour les générations futures, c'est ce que j'appelle les économies positives. Je me suis dit, c'est mieux que ça soit quelqu'un qui entre dans la même lignée, quelqu'un qui est pratiquement sous les mêmes traces, pour pouvoir montrer aux jeunes que ce pays a des modèles, que ce pays a des exemples à suivre.
L'ouvrage, lorsqu'on regarde la table des matières, il y a une préface, une introduction, et puis 10 inspirations concernant le professeur Jean-Jacques Mouyembe.
Exactement.
Alors, on va commencer par la première inspiration, biographie du professeur Jean-Jacques Mouyembe. À la page 21, vous dites ceci. La première chose qui m'inspire dans la vie du professeur Jean-Jacques Mouyembe est son âge. Oui. Il a totalisé 80 ans en 2022 et j'ai toujours les souvenirs des amis de son enfance durant la messe d'action de grâce à laquelle il m'avait invité à la paroisse Sacré-Cœur de la Gombe.
Exactement.
Commençons par là.
Vous savez, nous connaissons l'espérance de vie en RDC, c'est autour de 55 ans. Quelqu'un dépasse pratiquement les 70 ans, il a 80 ans, mais le contraste, Alain, c'est la vigueur, la force, l'attention qu'a cette personne à cet âge-là. Déjà, vivre à cet âge, vivre sur cette terre pendant 80 ans, ce n'est pas un hasard. En tout cas, ce n'est pas un hasard. Vous le savez bien, hein. Il y a une étude qui montre que 93% de votre durée de vie, dépend de vous.
Donc, ça veut dire hygiène de vie.
Hygiène de vie. Et que 7% seulement, c'est le hasard. Génétique, un accident et autre. Mais à plus de 90%, votre durée de vie, votre espérance de vie dépend de votre manière de vivre. L'hygiène de vie, le respect des mesures diététiques, ainsi de suite. Et quand je vois le professeur, justement, je me dis, malgré le fait que c'est une personne qui était très ancrée dans le travail, qui vous bossait, excusez-moi le terme, de manière la plus spectaculaire, mais cette personne est arrivée aujourd'hui à cet âge-là et donc il y a quelque chose à apprendre. Et c'est comme ça d'ailleurs, déjà le début, je me dis, donc il y a moyen, n'est-ce pas, de s'inspirer de la manière dont il a vécu pour se dire, il y a moyen justement aussi de rester un peu plus longtemps sur la terre en faisant des bonnes choses, pas pour rester seulement. Et donc vous comprenez que c'est un modèle de par la façon de vivre, l'hygiène de vie. Et j'en ai parlé, donc cette qualité de respecter son régime.
Et bon, allons-y dans les détails.
Exactement.
Oui, vous parlez du régime. Oui. Soyons concrets. C'est quoi qui fait le prof Mouyembe pour avoir 80 ans?
Alors, je ne vais pas aller dans tous les détails parce que comme tu as vu, j'étais très sobre en disant, écoutez, moi je prends son côté que j'ai vu, mais c'est quelqu'un par exemple dans la consommation, il n'est pas alcoolique, hein. C'est pas quelqu'un qui vous prend trop d'alcool. Et moi, chaque fois que j'allais dans son bureau, par moment, j'ai que je lui donne quelque chose, un sucre, il m'a dit non, moi j'ai commencé à baisser de consommer ça, j'ai baissé de faire ça. Est-ce quelqu'un parfois qui marche, c'est quelqu'un par moment qui a beaucoup de temps de détente aussi. Et donc j'ai compris que il y a des pratiques, parce que ce que j'ai vu, hein, déjà dans son milieu professionnel quand j'ai discuté avec lui, vraiment c'est une personne qui a des habitudes hygiéno-diététiques qui expliquent ce déterminant de vivre jusqu'à cet âge-là. Sans doute qu'il a d'autres secrets. Et donc j'ai été très clair en disant dans mon livre que le prof c'est un éléphant. Et comme disait ma mère à Lubumbashi, l'éléphant, je lui posais une fois la question, maman, quel est le goût de l'éléphant? Il dit, oh mon fils, l'éléphant a tous les goûts. Donc tu peux couper ici, c'est le goût du mouton. Tu coupes là-bas,
c'est
le goût de la chèvre. Voilà. Et donc, moi j'ai décrit les goûts que j'ai pu manger. Mais après, je suis convaincu que le prof a sûrement d'autres choses. Et c'est bien qu'il soit vivant sur ce livre, parce que si quelqu'un veut comprendre ça, le professeur est là, il est très accessible. Ça c'est une qualité vraiment qu'il faut reconnaître chez le prof, quelqu'un de très grand mais très accessible.
Page 22. Le professeur Jean-Jacques Mouyembe est d'une vigueur et ardeur semblable à celle d'un homme qui pourrait avoir la moitié de son âge. Il produit des résultats satisfaisants. Devant lui, certains jeunes ne seraient pas capables de tenir tête ni de faire le contrepoids.
Ouais,
c'est pas un peu fort ça?
Bon, écoute, c'est malheureusement je suis un témoin, et quand tu es témoin de quelqu'un qui a fait quelque chose, tu le rends tel que tu l'as vu, c'est clair. Là, regarde ce qui s'est passé, par exemple, sous les épidémies. Tu vois, d'abord, quand quelqu'un a un âge très avancé, je prends le cas de la pandémie de la maladie virus Ebola, il était déjà une personne à risque, de par l'âge. Parce que vous savez que toutes les personnes au-delà de 55 ans, c'était déjà un facteur de risque. Mais malgré ça, le professeur visitait les hôpitaux. Malgré ça, le professeur était au front. Il est même tombé malade à un moment donné. Donc, vous comprenez que c'est quelqu'un, alors que des jeunes pouvaient avoir peur, des jeunes pouvaient dire non, en tout cas, j'ai pas envie de contracter ce virus. Le professeur, il prenait justement ses mesures en main, mais il n'avait pas peur d'affronter la chose. Donc ça, c'est très important. Mais il faut voir comment il travaille. Moi, je le visite, je le vois régulièrement pour des discussions sous des papiers, sous des travaux, sur des réflexions politiques en matière de santé. Mais c'est une personne, quand il est sous sa table, il t'écrit avec son stylo, il te manipule son ordinateur, mais alors il vide toutes les questions devant lui. Et même quand il préside les réunions, il faut voir. Mais ce qui est contrastant avec d'autres personnes qui très facilement, moi je suis dans des réunions, vous trouvez un jeune qui somnole en pleine réunion alors que je ne vois pas ça avec le professeur. Et donc je pense que le professeur quelque part, il a une certaine vigueur, il a un tonus qu'il faut admirer, et qu'il faut aussi comprendre pour en être un modèle.
Il y a des paramètres que vous évoquez, la planification, la discipline personnelle,
exactement,
longueur, hauteur et plénitude de vie. Donnez-nous quelques détails.
Je commence par la fin, Alain. Je dis dans le livre que ce qui fait l'homme, c'est pas seulement la longueur de sa vie, mais c'est aussi sa hauteur. C'est mon point de vue, Pourquoi la longueur? Nous pouvons tous vivre 70 ans, mais ne pas avoir la même plénitude. En d'autres termes, lorsque tu veux calculer la surface d'une figure, tu prends la hauteur fois la largeur ou la longueur. Et donc, le professeur, c'est pas seulement une question de longévité, mais c'est aussi une question de hauteur. Donc, tu peux vivre 80 ans, mais avec une hauteur très courte. Tu peux vivre 80 ans, mais avec une hauteur très longue. Et donc, la surface est différente. Donc, on est un peu dans les mathématiques, là. Mais le professeur, c'est ça. C'est que, quand je parle de la plénitude, c'est que c'est pas quelqu'un seulement qui a vécu en termes de nombre d'années comptées, ok? Une année après l'autre. Mais c'est aussi des réalisations qui font son auteur.
Des réalisations qualitatives.
Voilà, qualitatives. Je dirais même, là, il y a une volumétrie quantitative et une volumétrie qualitative. Quantitative, par exemple, le professeur, aujourd'hui, autour de lui, il a poussé beaucoup de jeunes à être professeurs. On me parle de plus de 20 jeunes qui sont devenus professeurs d'université sous sa houlette. Ça, c'est par exemple une réalisation. Vous savez voir aujourd'hui la transformation à l'INRB, qui était jadis comme une petite école gardienne. Aujourd'hui, on a un institut qui fait la fierté du monde. Vous savez voir aussi tout ce qu'il a réalisé en termes d'études, en termes de publications et toutes les guerres qu'il a menées contre la maladie à virus Ebola. Ok? Et ça, c'est vraiment très important. Alors, ça, c'est le point très, très clé qu'il faut retenir. Mais aussi, premièrement, je vais au premier point sur la planification. Ce que j'ai vu, et j'en parle dans les livres, c'est que quand vous voyez le professeur, vous lui demandez à quel moment on peut se voir, ben, il vous sort un cahier et il vous dit exactement où est-ce qu'il est à quel moment.
Il planifie tout.
Il planifie tout le matin. Et j'ai appris ça aussi. C'est vrai que dans le temps, j'avais cette habitude aussi de faire ma planification journalière. Par moment pas. Mais avec lui, j'ai commencé à reprendre vraiment de manière acquittisante cette habitude. C'est quelqu'un qui t'écrit tout, qui planifie tout. Il sait te dire, demain à 11h30, je serai pas là. Demain à 10h30, je serai là. Et donc, cette planification fait de lui une personne qui gère correctement la ressource temps. Et comme tu le sais, le temps, c'est la première ressource. Le temps, c'est de l'argent. Les gens qui ont réussi, en tout cas, ils ont pris la gestion du temps au sérieux. Et ça, le professeur, il a. D'accord? Et donc, c'est ce genre d'éléments, ce genre de détails, je crois qu'on en a besoin aujourd'hui pour essayer de recadrer nos jeunes, mais surtout apprendre aussi comment on peut non seulement regarder le nombre d'années lorsqu'on fête ses anniversaires, mais aussi qu'est-ce qu'on met en termes de contenu dans les années qu'on passe.
La planification, c'est un aspect très important, comme vous le dites, exact, pour les jeunes générations. Apprendre à faire chaque chose en son temps.
Exactement.
Éviter de reporter à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui.
Exactement. Et surtout, quand on planifie, c'est se rendre toujours compte qu'on n'a pas tout. Et donc, faire des priorités. La dimension la plus importante dans la planification, c'est, comme tu viens de dire, Alain, c'est dire ce que je fais une heure après, un jour après, deux jours après, une semaine après, surtout se dire qu'est-ce qui est prioritaire, ok? Tu te lèves le matin, tu as 1000 choses à faire, mais qu'est-ce que je mets en tête? Et ça, c'est très important. Nous tous, nous avons des panoplies de rendez-vous, des panoplies d'appels, des panoplies d'invitations, mais la planification est cette dimension justement qui te permet de prioriser les activités, les rencontres qui sont importantes. Et ça, le professeur arrivait à le faire. Et ça, j'ai beaucoup appris de lui et je pense que c'est un modèle. Aujourd'hui, je crois qu'il faut de plus en plus martelé sur le fait que vous n'arrivez pas au résultat. C'est même pour ça que d'ailleurs Fayol et les autres ont dit que la première fonction du management, c'est la planification. En tout cas, je ne connais pas un processus qui arrive à des bons résultats sans planification, y compris sa propre vie.
Alors pour ceux qui nous suivent, hein, loin de nous et de vous et de moi, l'idée de dire que le professeur Muyembe est parfait, loin de là. Mais du moins, c'est une personne qui a des qualités.
Exactement.
Et nous devons apprendre, nous Congolais, à mettre en exergue les qualités, les bonnes choses qui sont faites.
Absolument.
Pour que ça serve d'inspiration, comme le dit le titre de l'ouvrage.
Exactement.
Alors, deuxième inspiration, Jean-Jacques Muyembe, homme de caractère.
Exact.
J'ai souligné page 27. Uh-huh. C'est un homme de parole très attaché et fidèle à tout engagement.
Okay.
C'est rare de nos jours.
Ah oui, très rare. Entre les paroles et les actes, hein, on le sait. Quelqu'un me faisait rire en disant, mais vous avez un pays où 90% des gens sont chrétiens, mais c'est le pays où on se demande pourquoi tant de vols, pourquoi tant de détournements et tout. Parce que justement, Alain, on vit un peu le paradoxe, c'est que les gens savent vous dire ce qui est bien, tout le monde va dimanche à l'église, mais quand vous vivez avec les personnes,
dans
vous
la
ne
pratique,
les reconnaissez
c'est
pas.
Différent.
Donc les gens n'ont pas la définition de ce qu'ils disent, les gens n'ont pas la définition de ce qu'ils racontent. Et le professeur, non seulement qu'il est, mais il me rappelait tout le temps que, écoute, et je me rappelle une fois, il m'a dit, tu sais, il a connu, il a lu, je pense, un livre, et moi j'avais aussi suivi ce discours de l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, qui disait, je cite, « Ce qui est important pour un homme, ce n'est pas ce qu'il promet, mais c'est ce qu'il fait. » Et tout le temps, il disait toujours, nous disons des choses, et quand on se mettait avec lui en réunion, il me rappelait toujours les recommandations, il me disait, mais l'autre fois, on a dit qu'on allait faire ça, on ne l'a pas fait. Maintenant, on va encore dire qu'on va faire autre chose. Donc, c'est quelqu'un qui tient beaucoup à la matérialisation de ce qu'il a dit. Et même quand on faisait le plan, je me rappelle quand on a fait notre premier plan, parce que nous étions parmi les premiers qu'il avait recrutés pour élaborer le tout premier plan de riposte contre la COVID-19. Et il était très acharné à ce que les actions se mettent en place. Il a bougé les partenaires pour avoir des moyens. Tout le temps, il ne cessait d'appeler pour que les ressources soient données afin qu'on puisse mettre en action les recommandations ou les options qui avaient été retenues. Vous savez, ça c'est très important. Et aujourd'hui, je crois que si nous commençons à contracter ou à rapprocher les paroles des actions, ben nous allons voir le changement. Et aujourd'hui, Alain, on le sait, hein, quand tu regardes notre pays, c'est un pays qui écrit beaucoup. Nous avons des plans, les meilleurs plans du monde. Nous
les meilleures lois.
Les meilleures lois, les meilleures stratégies. Moi, quand je vais dans des pays étrangers, je me dis, mais tu sais que nous nous sommes servis de votre plan X pour élaborer le nôtre. Mais quand tu vois dans ces pays-là, ils sont partis de l'ambition à l'action. Ils ont mené des actions. Mais nous, on reste à dire, on a écrit, on a une directive, on a une plateforme, on a un décret. Mais je crois que ce qu'il faut apprendre du professeur, une chose est d'écrire, une chose est d'élaborer des lois, des textes, des stratégies, mais une autre chose, c'est les mettre en œuvre.
Pour les jeunes qui nous suivent, vous avez un rendez-vous, apprendre à respecter l'heure.
Voilà. Comme aujourd'hui, tu m'as dit 11h, juste on commence, j'étais là 11h moins 3. Il faut se forger. Déjà dans notre pays, et ça même, on discutait tout le temps avec le professeur. Le respect, c'est d'abord vous, le leader, donner l'exemple. Parfois, on pense que quand on est chef, il faut arriver en retard parce que les autres vont attendre. Et ça, ce n'est pas bon. Et je crois que le respect des petites choses, le respect du feu rouge, le respect de l'heure d'arrivée, du rendez-vous, y compris quand il s'agit des subalternes, quand il s'agit des personnes, entre guillemets, inférieures sur le plan hiérarchique, ça fait partie du respect pour soi-même d'abord, mais vis-à-vis aussi de la personne qui vous appelle. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'il faut recadrer. C'est aussi une question de gouvernance.
La mauvaise gouvernance,
c'est aussi ne pas respecter les heures de rendez-vous et ainsi de suite.
Et prendre toutes les dispositions quand on est dans une ville comme Kinshasa où il y a beaucoup d'embouteillages, il faut être conséquent quand vous avez des rendez-vous.
Alors, je te donne un exemple. Le professeur, il habite Salongo et il arrive presque toujours à 11h et tu peux t'imaginer le trajet. Alors, je ne comprends jamais comment est-ce que quelqu'un qui habite loin, il arrive presque toujours à la même heure. Donc, c'est une question, encore une fois, de plus de planification. Quand on sait qu'il y a des embouteillages, on sait qu'on peut quitter plus tôt et arriver plus tôt. Et tout ça, ça fait partie de la discipline de la vie et ça fait partie des choses qu'il faudra renforcer. Autant si on ne sait pas respecter une heure, on ne sait pas respecter un feu rouge, autant on ne peut pas respecter les grandes choses. Moi, je ne connais pas quelqu'un qui ne sait pas respecter les petites choses et respecter les grandes. Donc cet exercice doit être une culture, une valeur qu'il faut vraiment mettre dans la vie au quotidien.
Dans un autre paragraphe, vous dites, de concert avec les équipes qu'il coordonne, il a toujours voulu que les résultats produits soient le reflet des valeurs qu'il défend.
Exactement. Deux éléments dans ce que tu as dit, Alain. Le premier élément, c'est que tu connais un peu comment ça se passe. Je sais pas dans le monde, mais dans notre pays, c'est un peu plus grand. Quand tu as atteint un niveau de vie, tu es nommé à la tête d'une institution, tu deviens un grand homme politique, tout d'un coup, ton accessibilité diminue. Il y a des gens, moi, je ne sais plus voir aujourd'hui, alors que je les voyais demain. Parce que tout simplement, bon, monsieur est devenu ministre, monsieur est devenu conseiller de ceci, ben, tu appelles, tu peux appeler et dire que voilà, c'est pas possible. Et ça, c'est un peu le caractère, si tu veux bien, usuel des gens. Mais il faut se battre contre ça. Ça veut dire, en d'autres termes, le pouvoir, tu sais, il est passager, les positions dans la société passent. Demain, tu reviens à la case de départ, tu recherches Alain, ton ami d'enfance, Michel, ton ami de travail. Et le professeur, tu t'imagines, moi, je n'ai pas une fonction, je dirais, spectaculaire dans la société. Je voyais même des jeunes chercheurs, des jeunes étudiants vouloir le rencontrer pour des questions, pour écrire un article. Le professeur avait toujours du temps pour ces gens-là. Alors, je voyais une personne comme lui, qui est visitée par des présidents de la République, hein, quelqu'un qui a des prix partout dans le monde, mais très accessible à tout le monde. Ça, c'est très important, cette humilité-là. Hein, c'est très important, cette accessibilité, de montrer qu'en fait, en effet, c'est quand aussi tu rencontres les autres qui sont, entre guillemets, inférieurs d'études, inférieurs de postes dans la société, que tu leur apprends ce qu'il faut faire pour justement pérenniser. C'est comme ça que je parle beaucoup de quelqu'un qui est un investisseur des économies positives. Ça, c'est d'abord le premier élément. Et donc, apprenons justement aussi à regarder les gens avec qui on a été avant, même si aujourd'hui on est devenu grand, hein, même si on est devenu un grand chef. Rappelons-nous toujours qu'après on revient, et parfois c'est quand on commence à chercher les personnes qu'on ne décrochait pas, qu'on ne recevait pas, parce qu'on est trop pris, hein, parce qu'on a beaucoup de réunions, parce qu'on
n'a jamais le temps pour personne.
On n'a jamais le temps, imagine, tu sais, on était dans la réunion, on a fini à minuit, j'ai vu tes appels en absence 3 jours après, donc tu vois, ce genre de choses, il faut les changer. Moi je me bats, chaque fois que je parle aux jeunes, je dis attention, gardez toujours votre simplicité, même si vous montez en hauteur. C'est ça d'ailleurs qui va encore vous faire monter plus. Alors la deuxième partie, Alain, c'est justement arriver au résultat par des valeurs. Alors, je donne un exemple. Tu peux gagner de l'argent en volant, et tu peux gagner de l'argent en trichant. Les gens vont voir l'argent. Les gens peuvent dire, ah, ce type est devenu riche. Mais quand on va dépiécer, on va gratter sur comment tu es devenu riche, c'est parfois par des méthodes frauduleuses. Mais si je parle des valeurs, c'est que si tu veux gagner de l'argent, gagne de l'argent honnêtement. Et je pense que c'est très important dans notre pays. On contemple, il y a des gens aujourd'hui, quand tu le regardes, tu dis, waouh, j'aimerais vraiment un jour arriver à ce niveau-là. Mais le jour où on te dit comment y est arrivé, tu te dis, non, je n'oserais pas prendre cette voie-là. Et donc, en parlant des résultats, c'est de dire, oui, le résultat, il est là. Ok, il est bon, mais comment on y arrive? Par quel moyen on y arrive? Et j'ai vu que le professeur, il tenait toujours à ce que les gens mettent le travail en avant, surtout le travail d'équipe. C'est comme ça d'ailleurs, quand on avait cette épidémie de la maladie du virus Ebola en 2018, on était dans une situation très difficile à l'Est, vous vous rappelez, avec l'insécurité. Le prof est arrivé, première chose, il a demandé qu'on associe les communautés locales, qu'on arrête de faire venir les gens d'ailleurs et qu'on compte sur les communautés locales, et on a changé totalement la direction de la riposte. Donc ça, ce sont des valeurs en une fois de plus qu'il faut apprendre.
Troisième inspiration. Alors, chers auditeurs et internautes, je suis en train là de vous donner le goût de lire cet ouvrage. C'est pourquoi nous le survolons avec Dr. Michel Mouvoudi pour vous donner ne fût-ce qu'un tout petit rien en termes de contenu, et c'est à vous de faire le reste. Troisième inspiration, le sens du travail acharné du professeur Jean-Jacques Muyembe. Mm-hmm. On l'a vu être de tous les fronts. Mm-hmm. Et pendant la Covid, à la cité, les gens se disaient, ah, mais c'est encore le même Muyembe, c'est toujours le même, exactement. Ebola, c'est toujours le même, Covid. Mais vous parlez d'un travail acharné, pourquoi?
Ouais. Alors, pourquoi est-ce que je parle d'un travail acharné? Parce que, vous savez, quand vous êtes dans des situations d'épidémie, hein, arriver au résultat, ça ne peut être que le concours d'un travail très, très acharné. Un travail assidu. Laborum Vincem Probus, donc un travail assidu qui vint tout. Et donc le professeur, dans toutes les situations où il a été invité, vous le savez, comme épidémiologiste, comme virologue, ce ne sont que des situations de catastrophe, d'urgence humanitaire. Ok ? Et là, vous n'avez pas le choix. Vous ne pouvez pas arriver là-bas et prendre votre temps, parce que chaque minute qui passe, c'est une vie perdue. Vous n'arrivez pas là-bas et en train de contempler, d'attendre. Donc vous devez, par tous les moyens, trouver une solution. Et la seule façon, c'est de travailler durement. Je me rappelle qu'on quittait parfois les bureaux à 21h, 22h, parce qu'il faut absolument finir un document, qu'il faut absolument envoyer une requête, qu'il faut absolument préparer un déploiement des acteurs sur le terrain. Mais ce qui est aussi bien dans ce travail assidu du professeur, c'est quelqu'un qui travaille toujours en équipe. Okay. C'est une personne qui aime toujours associer les autres aux réflexions, aux actions qu'il mène. Et ça, c'est très important. Et il n'a pas le temps de regarder qui est qui. Hein. Il n'a pas le temps de te poser la question, tu viens d'où, dis-moi, tu as étudié où? Non, c'est quelqu'un, une fois qu'il sent que tu es pertinent, tu es aussi tenace et que tu peux rester avec lui pour réfléchir autour des questions d'intérêt commun, ben, le professeur, il devient vraiment ton ami. Et voilà comment on a cheminé avec lui. Et je pense que nous devons beaucoup faire monter la culture du travail. Vous savez, j'aime bien le dire, l'argent c'est un résultat, l'argent c'est une conséquence. Malheureusement aujourd'hui, vous regardez toutes ces petites formations qu'on organise à Kinshasa pour apprendre aux jeunes à devenir millionnaires, c'est vraiment de l'impatience. Hein. Donc il y a un truc que tu peux faire, lundi tu as un million, il y a un truc que tu peux faire, je dis non. Quand tu regardes les grands millionnaires, ils ont été d'abord des gens patients, mais aussi des gens qui ont enduré, des gens qui sont restés dans un travail permanent, mais un travail de qualité. Et ça c'est très important. Et j'aime le dire aux jeunes, vous voulez arriver à l'argent, voyez l'argent comme une conséquence, comme un résultat qui va venir après un effort, après vraiment un investissement humain assidu. C'est dans ce sens justement que le professeur, à tout moment, il nous rappelait toujours au travail et surtout au travail bien fait. Il était très pointu sur la qualité du travail.
Le professeur Muyembe, très occupé, mais qui avait aussi des moments de divertissement, vous l'avez dit.
Oui.
À ces moments perdus, quand vous étiez ensemble, quel genre de musique par exemple
il aimait? Oh non, il aimait beaucoup la musique de son époque. Et je me rappelle une fois, il m'avait invité à une fête, je crois, de sa fille, fête de mariage. Chaque fois qu'on mettait une chanson, il me disait, ah ça me rappelle quand j'ai quitté tel endroit pour tel autre. Ah, ça me rappelle les années quand on était avec Kengo Adondo. Ah, mais ça, c'est vraiment le moment où Mobutu m'avait demandé d'aller à Yamboukou. Ah, ben, il aimait beaucoup la vieille musique. Et donc, c'est quelqu'un qui a les souvenirs de son enfance, du temps où il a commencé sa pratique médicale. Il est devenu doyen très jeune. Hein. Ce que j'ai appris de ses amis, qu'il était très jeune, mais doyen de faculté de médecine. Et donc, voilà. Donc, il puise beaucoup de son histoire aussi. Et c'est très bien qu'il lègue ça aux générations futures.
Alors, pour marquer notre première pause musicale, c'est quoi la chanson que vous lui dédiez?
Ouf! Alors, je pense que je prendrai Taboulay et peut-être Mazé. Vous connaissez?
Mazé, oui.
Peut-être ouais. Mazé. Voilà.
Alors, donc, on écoute la chanson et on revient juste après.
Merci.
Nzoto maze na mona moto nini na mekana yote motema nange kangami motambo na hayo pape kisabati kala na sonio elongi nzoke sangisa ba charme maze ole kante la bato banso bako baluka kitoke tonjo nzoto maze Bako ma baemba vraiment na monateo Mobimba ya moto heto na nzoto n'elegance Esalili kambo bana mibali bakufaye Bandeko vote la maze na linetie Leki ya mopati bimaze Aleka mibali mitema mikoveta ho Mwana ya mama ite maze Bandeko vote la maze na linetie Leki ya charufaye maze Ale kami bali mite mami kobeta e Mwana ya mama ite mama Olingo ngana e toka ngana libanga Tobaka na e bale ya zaire Masua madina kala mabi mateo Ebi mase libanga ya bolingo na biso Olingo ngana e toka ngana libanga Masua madina kala mabi mateo Ebi maseli banga ya bolingo na biso Kito keto ndio nzoto maze Ongenga mafuta walo na nzoto ye Mobimba ya moto eto na nyonso na bote Kobanda linzaka miso na suki ye Abwa kalokolo oyonde nsuka ya demarche Aluka Kinshasa mobimba bato bakufa ye Bolingo ngana ye toka ngana libanga Tobwaka na ebale ya zaire Masua madina kala mabi mateo Ebi mase libanga ya bolingo na biso
na nzoto e mobimba ya moto eto na nyonso na bote opanda linzaka miso na suki e abwaka lokolo oyo nde suka ya demarche alukaki nsasa mobimba bato bakufa e
Radio Capi, grand témoin.
Mesdames et messieurs, si vous venez de nous prendre en cours, sachez que grand témoin reçoit Dr Michel Mouvoudi, il est médecin, détenteur d'un master en santé et développement, business et administration, spécialiste en santé et gestionnaire des projets au sein du groupe de la Banque mondiale, région Afrique. Il est peintre, conférencier, incubateur et encadreur des jeunes à travers son groupe SID Solidarité, créé en 2016. Il est également doctorant à l'université de Lubumbashi en leadership et il est écrivain. Dr Michel Mouvoudi a publié un ouvrage très intéressant où il rend hommage au professeur Jean-Jacques Muyembe intitulé « Jean-Jacques Muyembe, cette personne inspirante » et c'est ça l'objet de notre émission. Nous sommes arrivés, Dr Michel Mouvoudi, à la quatrième inspiration, un homme soucieux de l'excellence.
Exact.
On a vu pendant la Covid, Dr Muyembe, soucieux des détails,
oui.
Soucieux de beaucoup de pédagogie, vouloir toujours expliquer pour que les populations comprennent. Ce n'était pas un moment très facile pour le pays et pour le monde entier d'ailleurs, mais soucieux de l'excellence malgré ça.
Oui, alors il est professeur d'abord. Il faut que vous sachiez que pour arriver à ce titre-là, vous ne pouvez pas y arriver en titubant.
N'y arrive pas qui veut.
C'est une rigueur scientifique, une démarche pointue. Et vous pouvez lire dans la première partie du livre que c'est quelqu'un vraiment qui a pris le temps de maturation. Donc, à ce titre-là, l'excellence devient quasi une obligation pour vous. Alors, deuxièmement, c'est quelqu'un qui aime toujours des choses bien faites. Okay, chaque fois que je l'ai invité même visiter un chantier, il était dans les détails des lignes, dans les détails des plafonds, il regardait très bien si la ligne est droite ou pas. Je me rappelle une fois, on a fait avec lui une visite à l'Équateur et je l'ai invité visiter quelques chantiers des centres de santé qu'on construisait dans un projet financé par la Banque mondiale, le PDSS. Et là, le professeur s'arrêtait vraiment à faire des analyses et des critiques sur l'architecture. Non, cette ligne, si vous regardez avec l'autre...
n'est pas en perspective.
Mais je vous dis, j'étais surpris. Et même l'architecte qui était en train de nous montrer le chantier, il pensait montrer le chantier à des médecins, à un professeur de virologie. Et donc, voilà, on le regarde, ouais, c'est le chantier. Mais en fait, c'est les détails. Et j'ai compris que il faut toujours avoir le souci des détails, Alain. Donc, on dit très bien que le diable se cache dans les détails. Mais moi, je change ça en disant que les anges sont dans les détails. En réalité, en fait, la qualité, c'est ce petit détail-là que parfois vous oubliez. Et le professeur était dedans, était vraiment dedans. Et vous savez voir, quand quelqu'un travaille dans tout ce qui est microscopie, quand quelqu'un travaille dans tout ce qui est
infiniment petit,
vous comprenez que c'est très important d'avoir une finesse, d'avoir vraiment du pointu sur un certain nombre d'aspects. Et ça, c'est vraiment une valeur qu'il faut mettre en exergue.
Et pour les jeunes qui nous suivent, oui. Il ne faut pas s'arrêter à ce qui est bien, mais viser au-delà, viser plus loin.
Exactement. Je sais, j'aime bien le dire, il faut toujours dire ce qu'on va devenir dans la vie. Ok, quitte à se tromper, hein. Je disais ça aux jeunes une fois. Ayez une vision pour votre vie, parce que j'encadre beaucoup les jeunes, et dites ce que vous allez devenir. Ce que vous voulez devenir. Je veux devenir député, musicien, je veux devenir journaliste à la radio Capi. Quitte à se tromper. Et si vous ne dites pas ce que vous allez devenir, ben, vous n'allez jamais le devenir, parce que comment vous allez organiser vos moyens, comment vous allez organiser vos ressources pour arriver à ce but-là? Ce ne sont pas les moyens qui amènent les idées. Par contre, ce sont les idées qui amènent les moyens. Et donc, du coup, ce que je dis toujours aux jeunes, visez loin, ok? Visez loin. Et surtout, ne regardez pas la réussite des gens. Regardez le parcours de leur réussite. Dans un livre que j'avais publié en 2022, Les lettres de ta réussite, c'est un livre que je recommande aussi aux jeunes, je parlais justement de ce parcours-là qu'il faut voir, parce que c'est quand on a les leçons, c'est quand on apprend que finalement on arrive à de bons résultats. Et le professeur, c'est encore une fois de plus une bibliothèque vivante qui est encore là, il faudra vite aller lire dedans.
Cinquième inspiration, Jean-Jacques Muyembe, un investisseur des économies positives.
Exact.
Je lis ce que vous définissez par économie.
C'est pas moi qui définis, donc c'est un terme qui existe. Hein,
voilà.
Donc c'est, je ne me donne pas la paternité de ce terme, mais voilà, mais lisez quand même.
Page 49.
Oui.
Les économies positives regroupent toutes les actions que l'on pose et qui tiennent compte des générations futures.
Exact.
Évoquer ce terme en parlant du professeur Jean-Jacques Muyembe me porte à résumer le fondement de ces actions en trois éléments clés, à savoir le long terme, la formation des jeunes et la lutte contre la mortalité occasionnée par les maladies, spécifiquement les épidémies.
Exactement.
Alors,
le long terme. Alors, je vais te dire quelque chose, Alain. Tu sais quand est-ce qu'on commence à bien gérer le présent? On commence à bien gérer le présent lorsqu'on pense au long terme. En d'autres termes, on se dit, je dois pouvoir un jour partir. Il faut qu'il y ait quelque chose qui continue après moi. Éviter de dire après moi, c'est fini, il faut fermer tout.
C'est le chaos.
C'est comme ça que tu vas beaucoup te soucier de l'éducation. Ok? Pourquoi est-ce que nous nous battons pour l'éducation des enfants et de nos petits-enfants? Parce que nous voulons qu'après nous, ces enfants et ces petits-enfants vivent correctement. C'est pas parce que nous devons rester. Sinon, on allait dire, ben, après moi, je suis parti. Je vais éduquer pourquoi les enfants? Pourquoi nous allons nous soucier du climat? Parce que après nous, il faut qu'il y ait des gens qui viennent, qui trouvent un climat potable, qui trouvent un climat où on peut vivre. C'est à ce titre-là. Lorsqu'on commence à penser après soi, lorsqu'on commence à penser génération future, on commence à gérer correctement le présent. C'est comme ça que tu ne vas pas laisser des dettes à tes enfants. Tu vas bien gérer la dette, tu ne vas pas laisser des créances partout pour que les enfants demain, qu'on commence à leur dire, écoutez, reprenons ça, parce que votre père n'a pas géré, parce que votre père n'a pas laissé. Ça, c'est très important. Maintenant, ce qui est bien avec le professeur, d'abord, c'est déjà comprendre que c'est une personne, malgré son âge, mais qui s'est battue pour faire monter en puissance plusieurs jeunes. Plus de 20 jeunes, aux côtés du professeur, sont professeurs d'université. C'est qu'on ne voit pas, hein, dans beaucoup de situations. Il faut que je sois seul professeur. Il faut qu'après moi, qu'on dise, il faut absolument qu'il ressuscite. Il y a même des gens qui font tout pour garder certains secrets afin d'être indispensable. Or, c'est pas possible. Et donc, lui, il a investi dans le futur. Il sait qu'aujourd'hui, après moi, il y a des gens qui peuvent continuer le travail que je suis en train de faire. Et ça, c'est très bien. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui reste immortel quelque part. On verra toujours ses traces dans les autres. Il y a des gens qui diront toujours, nous sommes des disciples de Jean-Jacques, nous tous, et ce que nous faisons, ça va carrément être la traduction de ce qu'il a été. Mais aussi, lutter contre tout ce qui arrête la vie. Donner la chance à la vie. Faire triompher la vie. J'aime ça. Ça veut dire permettre à ce que les gens vivent le plus longtemps. C'est justement permettre à ce que les enfants qui naissent, c'est comme ça d'ailleurs, vous avez vu, il s'est beaucoup battu, il a été un acteur important dans la découverte de certains vaccins. Et tout ça pourquoi? Pour que justement on puisse donner au maximum la chance à la vie et qu'on fasse triompher la vie dans toutes ses formes. Et ça pour moi, c'est vraiment un investisseur des économies positives.
Sixième inspiration, le professeur Jean-Jacques Muyembe, un homme altruiste, page 55. Mmh. Je me rappelle qu'il tenait un carnet dans lequel on trouvait des noms de personnes qui sollicitaient son soutien pour réaliser ou développer leur projet. Mmh. Le professeur Jean-Jacques Muyembe tend la main sans se questionner sur le bénéfice qu'il pourrait en tirer.
Voilà. Ça, c'est des choses vécues et ça m'a beaucoup fasciné. Tu sais, oui, il faut vendre l'expertise, dit-on. Hein. Quand tu es un expert, chacun qui vient, une personne qui arrive, écoutez, oui, je peux le faire, mais moi, qu'est-ce que j'ai?
Moyennant quelque chose.
Voilà. Et ça, tu sais que c'est un peu courant. Hein. Tout le monde veut toujours le retour. Qu'est-ce que moi j'ai en retour? Qu'est-ce que moi vous me donnez? Alors, ce que je voudrais dire ici, Alain, c'est que le professeur, moi je prends des cas où il a préfacé mon livre, le tout premier, sans question-réponse pour comprendre la Covid-19, parce que quand j'ai vu qu'il y avait trop de questions sur la Covid, j'ai écrit un livre pour que finalement les gens comprennent c'est quoi la Covid. Mais la manière dont le professeur a travaillé avec moi sur ce premier livre, il fallait absolument que je me dise, mais qu'est-ce que je dois payer au professeur? Il disait, il corrigeait, il me ramenait, il me disait, non, ça par contre tu modifies, ça va avoir tel. Mais jusqu'à ce que le livre est sorti, il est venu au vernissage. Et il m'a même donné les infrastructures de l'INRB pour le vernissage et je n'ai rien payé. Il a pris son temps. Vous voyez, ça c'est très important. C'est ça l'altruisme. En fait, c'est quelqu'un, quand tu fais quelque chose et qu'il y voit le bénéfice commun, il y voit l'intérêt général, il est prêt à se donner à toi sans te demander quoi que ce soit. Et ça, c'est un modèle qu'il faut copier. Aujourd'hui, pourquoi justement nous n'arrivons pas trop à évoluer dans le pays? Parce qu'on est dans les silos. On est très segmenté. Si je fais quelque chose à quelqu'un, il y a une raison. Il est de chez moi, il est de ma tribu, non mais il est de mon église, non mais je sais que lui aussi va me donner, à telle enseigne qu'il y a même des gens, quand il a fait quelque chose pour toi et qu'il n'a rien reçu, il va te le rappeler 10 fois. Écoute, j'ai fait pour toi ça, tu n'es jamais venu me donner, tu n'es jamais venu me dire. Et ça, c'est quoi qu'il faut dépasser? Lorsque Alain Irung est journaliste à la radio Capi et qu'il peut informer des gens qui peuvent changer, qui peuvent prendre des attitudes positives pour améliorer la santé, pour pouvoir contribuer au développement du pays, mais je crois que tout ce que je fais pour Alain, écoutez, c'est pas Alain que je fais, mais via Alain, je le fais pour des millions de Congolais, des millions de personnes, et c'est comme ça qu'on peut contribuer à l'humanité.
Je vais combiner deux inspirations.
D'accord.
La 7e et la 8e. Jean-Jacques Muyembe, 7e. Jean-Jacques Muyembe, un visionnaire et un leader. Et 8e inspiration, Jean-Jacques Muyembe, un homme de rigueur, mais en toute simplicité. Une main de fer dans un gant de velours.
Exactement. Ben, tu comprends, en fait, ce que je veux dire par là. C'est que la rigueur n'exclut pas, n'est-ce pas, la douceur. Qui aime bien, châtie bien, comme on dit. Et le professeur, ce que j'ai vu, prend le cas de la Covid-19. Chaque fois qu'il était en train de parler de la Covid-19, même sur sa page, il faut voir comment les gens, parfois, mettaient des injures, des attaques. Mais quelqu'un d'autre arrêterait en disant, bon, écoute, je suis en train de me battre pour une population qui ne reconnaît pas mes efforts et qui m'attaque par des mots durs. Mais le professeur, il a un côté humoriste que j'aime. Hein. Parfois, il rigolait même quand quelqu'un l'attaquait. Il blaguait avec la personne sur les réseaux sociaux. Mais je me disais, 3/4 des personnes devant de tels mots, je dirais carrément, écoutez, les amis, je vous laisse mourir. Mais le professeur est allé jusqu'au bout. En tout cas, jusqu'au bout. Donc, c'est quelqu'un dans cette rigueur-là, qui caractérise l'homme. Il prend toujours le temps de pouvoir vous accompagner et vous aider à aller de l'avant. C'est un père de famille, c'est un professeur, donc il est habitué à enseigner. Et ça, j'aime bien. Et le leadership, sa dimension de leadership, Alain, c'est surtout remarquable dans le service qu'il donne. En fait, quand tu sais, les grands leaders sont des serviteurs, c'est quelqu'un qui aime beaucoup servir, c'est quelqu'un qui aime toujours être une solution. Quand vous venez, professeur, ça, on n'arrive pas, ben, il vous met en réseau, il vous met en contact avec quelqu'un. Il est très humble aussi, hein, pour des choses où il peut vous référer chez quelqu'un, dit non, ça, vous voyez avec telle personne, je crois qu'il a déjà fait un travail similaire. Mais aussi, comme tu le sais, selon Jim Rohn, hein, une compétence des leaders, c'est que ce sont des gens qui aiment enseigner. Tu as connu tous les leaders du monde, c'est des enseignants. Le professeur, il adore enseigner, il adore apprendre. Il aime toujours passer son temps à expliquer comment il a vécu, comment il a fait. Et chaque fois qu'il vous donne une stratégie, il est toujours prêt à vous donner des exemples. Par exemple, en telle année, nous, on avait eu le même cas. Voilà comment on a fait. Dans telle situation, on avait connu le même problème. Voilà comment on a résolu. Et ça, pour moi, c'est du leadership, c'est de la vision. Et vous savez le voir à travers les œuvres qu'il est en train de laisser.
9e et 10e inspiration. 9e, Jean-Jacques Muyembe, une mémoire institutionnelle. Mm-hmm. Et 10e, Jean-Jacques Muyembe, l'homme en situation difficile.
Exactement. Alors, je commence par la 10e. Les situations difficiles, on en a vécu dans ce pays et vous avez vu le prof à l'œuvre, n'est-ce pas? Donc, c'est comme ça que je me suis dit, si je n'ai pas de prix à donner au professeur, écoutez, moi, ce livre, c'est un prix pour lui. On a vécu d'abord la grande pandémie à la Covid-19. Vous avez vu le prof jour pour jour communiquer, se battre. On était avec lui en réunion tout le temps et on a eu des résultats. C'était une pandémie assez monstre, mais on est quand même arrivé à réduire les drames. Et ça, c'est très important. Pas seulement ça, mais nous étions avec lui à l'Est lors de l'épidémie de la maladie à virus Ebola, donc en 2018, c'était très difficile. Hein. Imaginez-vous, vous faites la lutte contre une épidémie sur fond d'insécurité. Il fallait gérer à la fois le virus qui crée de l'insécurité, mais aussi il fallait se battre contre les groupes armés. Le professeur faisait des voyages dans les sites dangereux. Il venait au front, il nous voyait. Et ça, c'est très important à retenir. Et ça, c'est très, très capital. Et je crois que nous lui devons quand même beaucoup de respect. On doit reconnaître ce qu'il a fait. Il a mis sa vie à l'épreuve. Et pas seulement parce qu'il n'était pas obligé, hein, mais il l'a fait parce qu'il voulait montrer jusqu'où on peut aller lorsqu'on veut développer, lorsqu'on veut changer. Et l'autre côté, c'est comme je venais de dire, c'est une personne justement qui pense beaucoup au futur. Hein. C'est une personne qui veut toujours que ce qu'on fait reste. C'est quelqu'un qui est durable. Même quand vous discutez avec lui sur un projet, il vous dit toujours, il faut qu'il y ait des choses qui restent. Après nous, il faut qu'on arrive à voir. Il me donne toujours l'exemple des Belges. Il dit, regarde les maisons que les Belges ont construites. Quand tu vas dans des villages, en Mbandaka, tu vas dans le Kwilu, tu vas dans le Maïndombe, tu vas dans le Kassai, tu vas voir que les bâtiments que les Belges ont construits sont encore là. C'est parce qu'ils voyaient toujours le long terme. Et donc, ne faisons pas des choses éphémères. Ne soyons pas dans le court terme. Regardons le long terme. C'est comme ça que lui voit les choses. Et ça, pour moi, c'est très important. Lorsque vous voyez le long terme, vous commencez à construire le durable, y compris dans votre façon de vivre.
Deuxième pause musicale. La première, vous avez proposé du Rochereau avec Mazé. Deuxième pause musicale pour le prof Mouyembe. Qu'est-ce que vous lui dédiez comme chanson?
Qu'est-ce que je peux... Alors, Nico Kassanda peut-être.
Nico Kassanda, Ngaloula par exemple.
Ngaloula, ou bien Naki Abidjan.
Par exemple. Voilà, docteur Michel Mouvoudi, Charlie Louyer est notre technicien, mais fait plutôt signe qu'il nous propose, lui, Parafifi de Grand Calais.
Félicité, voilà moi si sous cabo d'épée. Oya lelo, o bébé si bo kili awa. La mofanzi, kara elenga paraiso. Ami pesi, yo so sena yo. Félicité, mwana mwasi suka bo debe. Oya lelo, o bébé si bo kili awa. La mofanzi, tala elenge paraiso. Ami pesi, nyoso sena yo.
Mama,
Le grand témoin.
Voilà, mesdames et messieurs, grand témoin aujourd'hui reçoit Dr Michel Mouvoudi, avec qui je parle de l'ouvrage qu'il vient de publier sur le professeur Jean-Jacques Muyembe. Jean-Jacques Muyembe, cette personne inspirante, mais Dr Michel Mouvoudi, on ne peut pas parler de Jean-Jacques Muyembe sans parler de vous. Hein.
Ah, merci beaucoup. je pense que si cela est important, oui, mais bon, voilà.
Eh bien, pourquoi pas. Apprenons à dire les bonnes choses aux personnes que nous aimons, aux personnes qui nous entourent. Quand ils sont encore en vie, ça ne sert à rien
d'attendre leur départ.
Et Lokua Kanzala bien dit dans une de ses chansons, n'attendez pas la mort d'un proche pour venir déverser de l'or sur sa tombe. Ça ne sert à rien. Alors vous-même, vous êtes écrivain, vous avez écrit plusieurs ouvrages. Celui que je tiens entre les mains, c'est 100 questions réponses pour comprendre la COVID-19. Un autre que j'ai entre les mains, leadership et performance organisationnelle. Un troisième que j'ai entre les mains, les lettres de ta réussite. Et un autre, ma vie, ma première entreprise et mon capital.
Exactement.
Un commentaire sur toutes ces publications.
Alors, premièrement, c'est une passion écrire. Les gens me posent la question, à quelle heure tu écris? Tu es très occupé, tu travailles comme gestionnaire de projet à la Banque mondiale et tout ça, on sait ce que c'est. Tu es tout le temps dans des réunions et tu es très actif dans les milieux des jeunes, mais à quelle heure tu écris? J'ai dit, écoutez, quand on aime quelque chose, on aura le temps. J'ai la passion d'écrire parce que moi-même, je suis enseignant, je suis quelqu'un qui aime beaucoup transmettre. Et comme je te dis, Alain, donc si on n'écrit pas, ça veut dire on refuse ce qu'on a reçu. En d'autres termes, nous sommes les fruits de ceux qui ont écrit, tout ce que nous avons appris, parce qu'il y a des gens qui ont écrit. Et donc, laissons la vie continuer, écrivons pour que les autres aussi s'inspirent. Deuxièmement, ce que si tu vois les livres que j'ai dit, c'est plus des livres qui vont dans le sens du développement personnel, des livres qui martèlent sur des valeurs. Et je m'inspire beaucoup de la cassure, de la défaillance actuelle, notamment dans l'organisation de la vie, notamment dans la gouvernance, notamment dans tout ce qui est innovation, pour pousser les gens à dire, ok, attention, c'est important de penser la vie autrement et nous sommes des investisseurs de la vie. Ne vivez pas comme si vous êtes éternel, ne vivez pas comme si après vous, tout doit tomber. Vivez en se disant, après moi, la vie doit continuer. Vivez en se disant, il faut que je laisse des traces. Et je crois que tous, nous avons été créés pour être utiles. Et tous ces livres, quand tu regardes, c'est vraiment des prescrits, c'est des conseils. Et la plupart, ça c'est le dénominateur commun, j'étire beaucoup l'expérience de ma propre vie. J'aime pas parler de la fiction, j'aime raconter des choses vécues. Je donne l'exemple de mon enfance, comment par exemple, je me suis battu à être répétiteur pour payer mes études. Comment est-ce que j'ai commencé mon premier travail comme médecin en ayant un salaire de $40, mais aujourd'hui c'est pas le cas. Le sacrifice que j'ai fait, j'étais en milieu rural, mais le temps aussi que j'ai consacré à aider beaucoup de jeunes à étudier, à aller de l'avant. En fait, aujourd'hui, j'ai des retours spectaculaires. Donc, c'est vraiment pour dire que nous devons être positifs, nous devons travailler ensemble, et je martèle beaucoup sur une valeur que j'adore, la solidarité. Qu'on n'a pas tous les mêmes moyens, on n'a pas tous la même intelligence, même dans la famille, on n'est pas les mêmes, nous sommes chacun unique. Mais si par solidarité nous nous mettons ensemble, la complémentarité, l'union fait toujours la force, nous pouvons arriver à beaucoup de résultats, surtout dans notre pays, la République démocratique du Congo, un pays que j'aime beaucoup.
Alors ces livres, ces ouvrages, où est-ce qu'on peut les trouver?
Alors pour le livre du professeur Jean-Jacques Muyembe qui a été publié aux éditions Harmattan, donc vous pouvez trouver ça en ligne sur le site Harmattan ou sinon sur Willery aux éditions Harmattan.
Ici à Kinshasa.
À Kinshasa. La plupart de mes livres sont dans les supermarchés. Bon, j'ai pas le contact tout à l'heure, mais je pourrais vous les envoyer pour pouvoir partager aux auditeurs. Mais sous ceux qui sont abonnés à ma page Facebook, Michel Mouvoudi officiel, vous pouvez très facilement retrouver mes livres. En tout cas, quand vous allez chez Gigi Market, vous allez à la librairie Grand Lac, vous pouvez facilement retrouver mes livres.
À part votre page Facebook, est-ce qu'il y a d'autres contacts? Email,
un numéro de téléphone pour ceux qui souhaiteraient vous joindre. C'est plus 243 83 000 1108. Donc je répète, plus 243 83 000 1108, c'est le numéro de mon assistante, à qui d'ailleurs j'ai dit un grand merci. J'ai une équipe formidable de jeunes, docteur Merveille, maître Héritier Ilélé. J'ai salué aussi tous mes collaborateurs qui sont partout, docteur Andy Kapoukou, maître Nadine Saïba. Je n'oublierai pas tous mes amis Yves Bukassa, des jeunes qui sont autour de moi et qui travaillent d'arrache-pied pour m'aider à réaliser ce que je suis en train de réaliser. Et je pense que d'autres, je peux pas citer tout le monde, en tout cas, que chacun trouve ici l'expression de ma profonde gratitude. Et nous sommes vraiment ensemble pour le futur et pour le meilleur pour ce pays.
Docteur Michel Mouvoudi, c'était un grand plaisir de vous recevoir dans Grand Témoin pour parler d'un autre grand témoin.
Exactement. Merci beaucoup, Alain. Et je pense que je reviendrai pour d'autres biographies, parce que je pense qu'on a encore beaucoup de gens dans ce pays qui méritent, n'est-ce pas, d'être mis en exergue. Toi aussi, Alain, je pense que le temps que tu as passé à la Radio Capi, tu as beaucoup à apprendre aux jeunes. Et je pense que le travail de transmission que tu fais, c'est un travail excellent, parce que sans transmission, la vie s'arrête.
Merci infiniment. Mesdames et messieurs, Grand Témoin, c'est fini pour aujourd'hui. Présentation Alain Rongmouchinj, technique Charlie Louyeye, supervision Jean-Marc Matouaki. Vous pouvez réécouter cette émission, voir la retrouver ou la télécharger et beaucoup d'autres numéros de Grand Témoin en allant sur www.radiocapi.net. Bonne suite des programmes sur la fréquence de la paix. Au revoir.